Ici Paris, vous nous recevez ? J'ai toujours rêvé de dire ça. Il y a précisément 100 ans, le premier commentateur sportif français de l'histoire commentait les premiers Jeux de Paris en 1924. En cette année olympique, et avec tout l'engouement autour de Paris 2024, inimaginable pour moi de ne pas vous présenter le parleur inconnu. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud. Bienvenue dans Les Passionneurs, le podcast des grandes voix du sport. Équilibriste de l'audiovisuel, conteur des temps modernes, passeur d'émotions, les commentateurs ont ce pouvoir de transformer un événement sportif en une épopée légendaire. Ayant la chance d'exercer ce métier passionnant depuis plus de 15 ans, je crois qu'il est temps pour moi de vous le faire découvrir et qu'il est surtout temps pour mes confrères de nous commenter leurs propres histoires. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de remonter aux origines. Connaissez-vous le parleur inconnu ? Non, normal. Il sévissait sur les ondes il y a précisément 100 ans. En cette année olympique, il me paraissait pertinent de commencer par celui qui est formellement identifié par tous les historiens comme le premier commentateur sportif français. En tout cas, le premier à décrire dans un micro ce qu'il voyait ce jour-là, ce 6 octobre 1923, date de la première retransmission sportive radiophonique Salvagram à Paris, lors d'un combat de boxe assez banal entre le français Eugène Criqui et le belge Henri Hébrans. Malheureusement, il n'existe aucune archive de ce commentaire. Je voulais tout de même vous faire écouter sa voix. Nous sommes toujours Salvagram, mais en 1929. De Horter tient le micro pour Radiola, l'ancêtre de Radio Paris. Il s'agit toujours de boxe. Le combat oppose l'américain Frankie Gennaro, déjà champion du monde en poids mouche, au français Émile Pladner, le challenger, pour le titre de champion du monde. Le commentaire est précis, l'œil averti. Le phrasé, typique du parleur inconnu, nous plongerait presque dans un roman. Écoutez.
Nos deux hommes sont maintenant seuls, debout, leurs mains grandes et demi-saines appuyées sur les cordes, attendant le coup de gong. Pladner est un peu pâle, il est culotté de bleu, les cheveux luisants bien collés, et Gennaro, au contraire, sa crinière en broussaille, sa culotte est grenade. Premier round.
Pour la double petite anecdote, c'est l'américain Gennaro qui gagna ce jour-là. Mais Pladner, lui, décrochera le titre de champion du monde le 2 mars 1929, au Veldiv, face à Gennaro, en, écoutez bien, 58 secondes, historique. Une chose est sûre, cet acte banal pour Edmond de Horter a en fait été fondateur pour la radio et pour le sport. Bienfaiteur aussi, surtout pour les rares Français équipés d'un récepteur ce jour-là. Il est désormais possible d'avoir des infos instantanément et de faire vivre des événements en direct. La révolution est en marche pour le journalisme sportif radiodiffusé. Mais personne n'en prend la pleine mesure tout de suite. Il faudra attendre les Jeux de Paris 1924. On y reviendra. Avant, petit retour en arrière. Né à Londres, le 4 février 1877, Edmond Albert de Horter voit le jour dans un monde où la presse écrite demeure encore la seule source d'information. Depuis le début du 19e siècle, les agences de presse, comme Havas dès 1835, alimentent les journaux en dépêches, juste avant bouclage. Dès 1874, les grands quotidiens s'équipent de télégraphes. Ce tournant marque le début d'une première mutation. En effet, l'info se décloisonne, se mondialise, s'accélère même. En 1903, l'historien Anatole Leroy-Beaulieu s'attaque à, je cite, « la presse qui vise le nombre ». Et comme il le répète assez régulièrement au public, « le nombre n'est pas maître de la délicatesse morale et intellectuelle ». Mais au-delà du contenu, ce sont les révolutions technologiques qui redéfinissent en profondeur les systèmes narratifs de la presse quotidienne. Comme le remarque le journaliste Auguste de Chambure, quelques semaines avant la Grande Guerre, je cite « Si l'information se fait toujours plus rapide, c'est parce que le public n'a plus une minute à perdre. » D'ailleurs, durant la Première Guerre mondiale, si la presse écrite reste majeure avec les articles de propagande, on assiste à la naissance du photo-reportage, futur allié essentiel de la promotion des radiodiffusions sportives en direct. Le public veut tout savoir et tout de suite. Une photo, voire même un reporter, qui témoigne en direct sur les ondes, apporte plus de concret. Pas le temps pour les analyses. Le pays est en guerre. Cela donne l'occasion à la SFR de se développer. Il faut mobiliser tout le monde. D'une certaine manière, cette immédiateté de l'information pose les fondations des innombrables courses au scoop auxquelles on peut assister aujourd'hui. Et dans le sport, ça a une importance capitale. Au sortir de l'armistice de Rotonde, on assiste à une véritable course au projet. L'expansion de la SFR va de pair avec l'avènement de la radiotechnique créée à Lyon en 1919. Parallèlement, début 1922, avec le concours du général Gustave-Auguste Ferrier, des émissions régulières sont émises depuis le transmetteur militaire de la Tour Eiffel. Une opportunité en or pour tout projet de station privée. Et c'est ainsi que le 26 juin 1922 ont lieu les premiers essais de Radiola, une station française généraliste privée. Le 6 novembre de la même année, elle émet pour la première fois et met en avant son premier speaker vedette, Marcel Laporte, sous le pseudonyme Radiolo.
Bonsoir mesdames, votre serviteur Radiolo a l'honneur de vous annoncer que vous allez entendre le premier concert Radiola organisé par la Société française radioélectrique 79 boulevard Haussmann. Afin de donner à nos auditions un caractère artistique élevé, nous avons fait appel à l'éminent chef d'orchestre Victor Charpentier, qui a bien voulu se charger de l'élaboration de nos programmes.
Le dimanche 6 mai 1923, la toute jeune Radiola annonce que le compte-rendu du match Carpentier-Nil sera donné round par round à l'antenne à partir de 15h45 en direct du stade Vélodrome de Buffalo à Montrouge. Une première dans l'histoire de la radio en France. Et devinez qui est au micro ? Le parleur inconnu, alias Edmond de Horter, qui vient tout juste d'être embauché par Radiola. Il commente les rounds en direct et à la fin du combat, coup de tonnerre. Georges Carpentier, alors champion de France, descend du ring et se place devant le microphone pour envoyer dans les ondes. Ici Georges Carpentier, je viens de battre Neil en 8 rounds, je suis très content de ma victoire. La surprise est totale pour De Horter et on assiste bien là aux premières réactions d'un champion en direct. 19 jours plus tard, dimanche 27 mai 1923, les championnats du monde de tennis de terre battue se disputent au Bois de Saint-Cloud. La gagnante, la Française Suzanne Lenglen, accepte de répondre aux questions d'Edmond de Horter, qui a cette fois-ci pris les devants. Choix payant, car il s'avère que la divine, comme on la surnomme à l'époque, est beaucoup plus bavarde que Carpentier. Elle prend cette fois-ci le temps d'expliquer à Edmond comment elle est venue à bout de sa concurrente anglaise. C'est la révélation pour notre parleur inconnu, qui devient ainsi le pionnier de l'interview en direct. Fort de cette expérience, il parvient à négocier avec les PTT un circuit téléphonique permettant de diffuser en direct de la salle Wagram le reportage du match Eugène Criqui, ex-champion du monde des poids plumes, face au champion belge Henri Ebrens. Sur le plan sportif, le combat est assez banal. Sur le plan radiophonique, c'est une première en France. C'est la toute première retransmission sportive radiophonique. Le succès est total. Car si la presse écrite ne fait que décrire et interpréter, les ondes radiophoniques permettent de restituer un contexte et de transmettre des codes qui amplifient l'adhésion des abonnés. Les sons informent que le micro extrait de la foule deviennent la force des retransmissions et permettent de faire vivre des émotions en direct. En 1923, la presse écrite salue la performance technique, mais s'inquiète aussi car Paris accueille les JO en 1924. Hors de question de se faire damer le pion par ces nouveaux compteurs. C'est précisément pour cette raison que De Horter se voit être interdit de stade aux Jeux de Paris 1924. Un fait qui construira sa légende. Jamais à court de ressources, il décide en effet de s'installer dans la nacelle d'un ballon captif, armé de ses jumelles et de son micro. De sa montgolfière statique, il bénéficie d'une vue imprenable sur les différents sites olympiques dont le nouveau stade de Colombes, le Veldiv ou encore le plan d'eau d'Argenteuil. Mais forcément, à une telle altitude, il faut composer avec le vent. Eole le fait passer d'un stade à un autre en un coup de vent et surtout les rafales s'engouffrent dans son micro, ce qui cause un son assez inaudible. Une expérience pénible pour De Horter, mais aussi pour ceux qui l'écoutent. Il parvient finalement à trouver un accord pour entrer dans les différents stades. À lui, toutes les disciplines à commenter en direct pour tous les abonnés. Pour l'anecdote, les athlètes français brillent cette année-là en rapportant 40 médailles, dont 13 en or, 17 en argent et 10 en bronze. Roger Ducret, 36 ans, bat en finale du fleuret son compatriote Philippe Catiot. L'équipe de France de cyclisme survole les épreuves avec 6 médailles, dont 4 titres sur les 6 courses au programme. À Vincennes, sur la piste de la Cipale, Lucien Michard gagne la vitesse, Jean Cugnot et Lucien Choury le tandem. Sur route, victoire d'Armand Blanchonnet en individuel et de la France par équipe. Pour la dernière apparition du tennis, avant 1988, tous les mousquetaires montent sur le podium. Henri Cochet en simple, argent, Cochet et Toto Brugnon en double pour l'argent, Jean Borotra et René Lacoste en double également pour le bronze. À la piscine des Tourelles, enfin, les poloïstes tricolores remportent la médaille d'or. Le triomphe de la France va de pair avec le succès absolu des reportages de De Horter. Grâce à sa motivation sans faille, il rentre à nouveau dans l'histoire en devenant le premier commentateur sportif français, cerise sur le gâteau, lors des Jeux de Paris 1924. Malgré le retentissement national et international de cette révolution radiophonique, la guéguerre avec la presse écrite se perpétue quelques années après encore, surtout dans les sports les plus en vue, à l'image du cyclisme, du foot et du rugby bien sûr. La plume de guerre est définitivement enterrée en 1927, lors de la finale du championnat de France de rugby à 15, remportée par le Stade Toulousain aux dépens du Stade Français. En effet, depuis quelques années, Edmond De Horter contribue à démocratiser le jeu de rugby dans l'imaginaire populaire français. Son rôle devient si essentiel que tout le monde est unanime pour dire qu'il est la voix du rugby. Mais ça va plus loin. Il véhicule aussi une culture de l'Ovalie inédite. En plus de commenter un spectacle vivant et bruyant, que tout le monde redemande d'ailleurs, il impulse dans chaque onde radio sa passion et ses émotions. L'essence même de notre beau métier. Et si les médias ont évolué, l'intention du commentateur sportif, elle, n'a pas changé. Partager la même passion en restant authentique, comme Edmond De Horter. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il suscitera des vocations. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Passionneurs avec une autre grande voix du sport, en chair et en os cette fois-ci. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, dans la vie comme sur les terrains, soyez sport.